VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Bonsoir, ravi de vous retrouver dans environ 10 minutes, votre rendez-vous avec Carrefour que vous présentera Camille Gros-Didier, mais pour l'heure, un bulletin d'information. Nouveau développement dans l'affaire Simone Gbagbo, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. Le procureur a requis ce mardi 10 ans de prison contre l'épouse de l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo. Hier, pour rappel, le parquet avait déjà requis contre Madame Gbagbo et ses 82 co-accusés des dommages et intérêts de 2000 milliards de francs CFA. Écoutons la réaction d'un des membres de sa défense, Maître Dadji Rodrigue.
J'estime que les avocats de l'État du Côte d'Ivoire sont dans leur droit. C'est leur rôle en tant que partie civile de demander des dommages et intérêts. Maintenant, est-ce que ces dommages et intérêts sont fondés? La bonne question. Moi, j'estime que les infractions pour lesquelles mes clients sont poursuivis là ne sont pas du tout constituées. Ça, c'est la première des choses. Donc, à partir du moment où ces infractions ne sont pas constituées, ils n'ont pas à pouvoir indemniser l'État du Côte d'Ivoire d'un quelconque montant. Et maintenant, en ce qui concerne les dommages et intérêts demandés par l'État de Côte d'Ivoire, j'estime que c'est un peu exorbitant, sinon absurde. Ça ne repose sur aucune base. En plus, on demande que les 2000 milliards soient payés de façon solidaire par les différents accusés, qui ne sont pas co-accusés ou complices des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Ils sont poursuivis individuellement, chacun pour sa part, pour les mêmes infractions. Mais il s'offre à nous juste un seul choix. C'est juste de plaider demain pour, en tant qu'avocat de la défense, la non-culpabilité de nos clients. En précisant bien que le parquet général reconnaît qu'il n'y a aucun élément de preuve à l'encontre de nos clients.
Maître Dadji Rodrigue, joint par Salwa Jaafari. Les trois pays frappés par Ebola ont appelé ce mardi la communauté internationale à lancer un plan Marshall pour aider à leur redressement économique et gagner la guerre contre Ebola. C'était lors d'une conférence à Bruxelles visant à coordonner les combats encore à livrer contre l'épidémie. Le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, a indiqué que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone vont présenter un plan régional lors d'une réunion en avril de la Banque mondiale et du FMI, tel que le rapporte l'AFP. Il a également dénoncé des retards en matière des aides promises par les pays donateurs, d'autant que sur les 4,9 milliards de dollars engagés contre la maladie, 2,4 ont été déboursés. Pour la présidente libérienne Hélène Johnson-Sirleaf, l'impact d'Ebola sur les économies concernées a été profond et cela impose des plans et stratégies de redressement pour les accompagner, l'équivalent, dit-elle, d'un plan Marshall sur le modèle du plan américain de reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Le Haut Commissariat aux réfugiés annonce aujourd'hui que la dernière vague d'attaques des combattants islamistes de Boko Haram au Nigeria a entraîné la fuite en quelques jours vers le Cameroun, voisin de 16 000 personnes. Le HCR dit collaborer avec le gouvernement camerounais pour reloger les rescapés le plus rapidement possible. Les grandes lignes du rapport du HCR avec Salwa Jaafari.
L'hémorragie semble de plus en plus aiguë. Des milliers de personnes jetées sur la route de l'Exode. 16 000 sont déjà arrivées à destination tout au long de la frontière avec le Cameroun. À Makari, Logone, Birni, Fotokol, au sud du lac Tchad. Sur place, le HCR tente tant bien que mal de trouver des logements aux réfugiés. Sur le site de transit Kousseri, par exemple, à 90 km de la frontière au nord de Manao. Sur le terrain aussi, le gouvernement camerounais, le Programme alimentaire mondial et autres organisations fournissent une assistance d'urgence. Les convois de déménagement de la frontière à Kousseri vont commencer demain. Rappelons que le Cameroun n'est pas la seule destination de ces victimes de guerre. Plus de 100 000 personnes ont trouvé refuge au Niger dans les deux dernières années et quelques 18 000 ont choisi le Tchad depuis janvier.
Le chef de milice congolais, Thomas Lubanga, devra personnellement indemniser ses victimes. C'est ce qu'a décidé la chambre d'appel de la Cour pénale internationale, citée par l'AFP. Lubanga a déjà été condamné à 14 ans de prison pour crimes de guerre, pour l'enrôlement de mineurs dans le conflit qui a déchiré l'Est de la République démocratique du Congo en 2002-2003. Menace de grève générale jeudi au Burundi. La menace est brandie par un collectif contre la vie chère qui demande la baisse du prix de l'essence, le renoncement à la nouvelle taxe sur les communications. Le président a appelé les membres du collectif à surseoir à ce mouvement de grève et à participer ensemble à la recherche d'une solution pour tous. Mais le collectif, qui a déjà écrit deux fois au chef de l'État, a regretté une réponse tardive et insuffisante. Conflit au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar se sont rencontrés dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Des négociations dites de la dernière chance puisque les deux rivaux ont jusqu'à jeudi pour trouver un accord de paix. L'ultimatum lancé par les pays est-africains médiateurs du conflit expire dans 48 heures. Dans le même temps, les Nations Unies ont adopté une résolution qui prévoit des sanctions contre les belligérants sud-soudanais. D'après l'AFP, le Conseil de sécurité se donne la possibilité de geler les avoirs de ceux qui menacent la stabilité du pays, se rendent coupables d'exactions ou entravent l'aide humanitaire et de leur interdire de voyager. Des experts seront également chargés de surveiller le flot d'armes qui alimente les hostilités. Mais la résolution n'impose pas pour le moment d'embargo sur ces armes. Les individus à sanctionner n'ont cependant pas été désignés.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dans le cahier international, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé ce mardi un discours devant le Congrès américain. L'exercice était attendu pour évoquer un possible accord sur le nucléaire iranien que Washington veut conclure avec Téhéran à la fin du mois. Nicolas Pinou.
Chaleureusement applaudi, le premier ministre israélien s'en est pris directement au régime iranien dénonçant les ayatollahs qui menacent de détruire Israël. Netanyahou a demandé de se lever ensemble pour stopper l'Iran, car selon lui, le régime du président Hassan Rouhani et l'État islamique représentent la même menace, un islam violent qui veut diriger le monde. Raison pour laquelle l'accord avec l'Iran ne doit pas être signé selon Benjamin Netanyahou.
If the deal now being negotiated... is accepted by Iran.
Si le deal négocié est accepté, il ne va pas empêcher l'Iran, mais va garantir que l'Iran va avoir plus d'armes, affirme Netanyahou, qui explique que les sanctions actuelles n'ont pas marché. Pour Netanyahou, le possible accord négocié actuellement à Genève est très mauvais. Selon lui, les inspections de l'AIEA ne sont pas suffisantes pour interrompre le programme nucléaire militaire iranien qui permettrait à Téhéran d'avoir la bombe nucléaire. Ce discours était prononcé à l'invitation des Républicains au Parlement, ce qui a provoqué la colère de la Maison-Blanche. Conséquence, une cinquantaine de parlementaires démocrates ont boycotté cette intervention.
Alors que Benjamin Netanyahou réaffirmait au Congrès américain son opposition à l'accord actuellement en négociation entre l'Iran et les puissances mondiales, le secrétaire d'État John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif s'acharnaient en Suisse à forger une entente sur l'avenir du nucléaire iranien. L'Iran et le groupe 5+1 se sont imposés le 31 mars comme date limite pour un accord politique et le 1er juillet pour l'accord final. À Moscou, les proches et partisans de Boris Nemtsov, abattus vendredi soir près du Kremlin, lui ont rendu un dernier hommage. L'opposant de 55 ans, farouche critique du président Vladimir Poutine, devait être inhumé ce mardi dans la capitale russe. Monsieur Poutine a promis une enquête sérieuse sur ce meurtre que plusieurs activistes de l'opposition considèrent comme un acte de représailles. Des dignitaires étrangers, dont l'ambassadeur américain John Taft et l'ancien premier ministre britannique John May, ont assisté aux funérailles de Boris Nemtsov. En Irak, l'offensive de l'armée pour la reconquête de Tikrit, bastion des djihadistes de l'État islamique, s'est poursuivie pour une troisième journée. Quelques 30 000 soldats irakiens et combattants kurdes avancent vers la ville rebelle, lieu de naissance de l'ex-dictateur Saddam Hussein. Selon les agences de presse, cette offensive a également le soutien de l'Iran. Rappelons que Tikrit est aux mains des djihadistes depuis fin juin dernier. Selon la Maison-Blanche, le président américain Barack Obama doit participer aujourd'hui avec des dirigeants européens, dont le français François Hollande, l'allemande Angela Merkel et le britannique David Cameron, à une vidéoconférence consacrée à la crise en Ukraine et à la sécurité mondiale. Le premier ministre italien Matteo Renzi et le président du Conseil européen Donald Tusk devaient également participer à ces entretiens à huis clos. Et voilà, merci de votre attention. Rendez-vous tout à l'heure avec un autre bulletin d'information. Merci à Georges-Léonard Sagneux qui a dirigé la mise en onde. Et voilà, je vous souhaite d'agréables moments sur VOA Afrique.